Dicandidat.fr pour savoir comment postuler. Dicandidat.
La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans cette danse des mots qui aimerait faire danser des mots aujourd'hui, des mots formidables, des mots qu'on n'a jamais entendus, en tout cas que je n'ai encore jamais entendus et que j'ai lu pour la première fois il y a quelques jours sous la plume de Laurent Nunez, des mots comme Gigil, Iktsuarpok, Mamila Pinatopai ou Takitourire, des mots qui vous font saliver et dont je vous dis en toute honnêteté que je les entends aujourd'hui pour la première fois parce qu'en effet, je n'ai pas pour habitude de lire tout haut. Laurent Nunez, j'ai lu donc votre livre tout bas et aujourd'hui je le découvre oralisé, ce qui est évidemment un plaisir. Bonjour Laurent Nunez.
Bonjour Yvan.
Merci bien donc d'être venu avec ce livre. Il nous faudrait des mots nouveaux que vous venez de faire paraître aux éditions du CERF et qui est une tentative d'inventer, non pas d'inventer, mais d'emprunter, disons, un certain nombre de mots qui existent dans d'autres langues que la nôtre et qui disent des choses qu'on ne dit pas en français. Donc, ce sont 13 termes différents qui font réfléchir à des situations qui ne sont pas nommées dans la langue française. Est-ce que ça veut dire qu'elles n'existent pas dans la langue française, ces situations, et qu'on attendait qu'il y ait des mots pour les nommer, pour les faire exister?
C'est tout le problème qui m'a donné envie d'écrire ce livre, vous savez. On peut penser qu'il nous arrive des choses et qui sont innommables. Mais moi, je pense que parfois, c'est le contraire. Vous savez, il y a quelque chose de très simple. Le mot, par exemple, on prend un mot qu'on connaît tous de nos jours. Le mot boycott. Voilà. Eh ben, qui existe en France depuis, on pense, 1851. Auparavant, il y avait moins de boycott quand le mot n'existait pas. C'est-à-dire qu'il a fallu que un mot résume une possibilité d'action pour que les gens, dans leur tête, se disent « Tiens, et si ensuite on allait boycotter ?» Donc, vous voyez, un mot multiplie la possibilité d'une action d'arriver dans la vie.
C'est vrai, ce peut être aussi le contraire. La multiplication de cette action fait qu'on s'interroge sur la vacuité linguistique et qu'on se dit « Ah, il faut quand même un mot. » Boycott, de toute façon, c'était emprunté, c'était en Irlande, je crois,
oui,
c'était
en
un
Irlande.
Très méchant capitaine.
Oui, voilà, c'est ça. Je connais pas l'histoire en particulier, je l'ai vu de loin, mais regardez les lanceurs d'alerte. Les altermondialistes. Il faut qu'un mot existe pour qu'enfin on puisse se dire qu'on a le droit de l'être. Et qu'un lanceur d'alerte, c'est plus considéré comme une sorte d'ennemi. C'est que maintenant une sorte de bienfaiteur, de quelqu'un qui alerte l'opinion publique. Donc vous voyez, un mot peut nous permettre de penser à une action qu'on n'avait jamais imaginée.
C'est vrai. C'est pas si récent que ça. Souvenez-vous de ce mot de Gide Merveilleux qui dit « belle fonction que celle d'inquiéteur ». Alors, ce n'était pas vraiment un lanceur d'alerte, mais il avait ça à l'esprit. Et si on parle de lanceur d'alerte, c'est parce que les communications ont changé. On lance des alertes sur des moyens de communiquer qui n'existaient pas il y a encore 20 ans. Il est certain que l'alerte en est elle-même affectée.
Oui, c'est évident. Comme les temps changent, peut-être les mots changent en eux.
Bien
mais
sûr.
Justement, je me méfie de ces mots trop modernes. Tu sais, un mot moderne, c'est un mot qui est appelé à mourir. Tous les mots technologiques, on sait qu'ils mourront. Moi, j'ai décidé de prendre 13 mots de 13 pays ou civilisations différentes sur l'amour, l'amitié, les liens sociaux, la solitude, et me dire... Qu'est-ce qui se passerait si ces mots-là, en fait, on les avait en France? Qu'est-ce qui se passerait si d'un coup, on avait la possibilité, enfin, de réfléchir à partir de ces mots-là? L'idée, vraiment, c'est très orgueilleux, l'idée, c'est de changer de vocabulaire pour essayer de changer la vie.
L'intérêt aussi, quand on lit votre livre, Laurent Nunez, c'est qu'on voit que dans ces mots que vous avez empruntés à des langues extrêmement différentes, on se trouve face à des sens qui sont variés et qui sont parfois presque contradictoires. Je prends comme exemple ce mot difficile à prononcer, qui nous vient de la langue Inuktitut, et qui est Iktsuarpok. Prononcez-le pour voir.
Oui, Iktsuarpok.
Ah ouais, vous vous êtes entraîné. Non, alors, on sent que vous avez une longue habitude de ce mot.
J'ai regardé et de toute façon, au début de chaque chapitre, j'ai essayé de donner la description phonétique. Parce que le but, c'est que les gens réemploient ce mot de Iktsuarpok,
qui est un peu... Ah, vous dites pouk et pas pok.
Ouais,
j'aurais dit pouk.
C'est vrai. Ouais.
Bon, alors, dites-nous un petit peu ce que ça veut dire, si c'est facile de le dire. Parce qu'il me semble, après que moi j'ai lu le chapitre, qu'il y a deux possibilités de comprendre le mot et des possibilités presque contraires.
Ouais. Alors, l'Ixwarpouk, c'est un beau mot parce que c'est un mot qui vient de l'Inuktitut, qui est la langue des Inuits. C'est un mot qui désigne l'excitation qu'on a que quelque chose arrive dans la vie. Et pour que quelque chose arrive, on est obligé de prendre un certain risque. L'Ixwarpouk pur, vous savez, c'est un mot que disent les Inuits lorsqu'ils attendent quelqu'un et qu'ils sortent de chez eux. Ils ouvrent la porte et ils sortent de chez eux pour voir si ce quelqu'un qu'ils attendent ne va pas arriver. Donc, vous vous rendez compte, dans ces contrées extrêmement froides, c'est, ils renoncent à la chaleur, au foyer,
etc. Déjà, il faut
etc.
ouvrir la porte. Sortir sur le pas de la porte. Imaginez qu'il fait moins 50, à peu près. C'est pas rien. Pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vient vous voir, alors que visiblement, il n'y a pas une âme à 50 km à la ronde.
Évidemment.
Donc, la possibilité qu'il y ait quelqu'un qui soit sur le pas de la porte juste par hasard est de 1 sur 3 milliards, à peu près.
Ouais. Mais il y a une excitation qui est trop forte, on a envie que quelque chose arrive, on regarde au loin, on regarde vers le futur. Et je profite de ce mot-là pour nous interroger sur notre relation à deux choses que j'oppose, qui est le futur et l'avenir. Voilà, l'avenir,
différence faites-vous entre le futur et l'avenir, Laurent Nunez ?
Vous savez, l'avenir, c'est ce qui est à venir. Donc c'est ce qu'en fait vous voyez déjà venir, c'est-à-dire la place de concert que vous avez préparée, vos prochaines vacances de Noël, etc. C'est intéressant, mais c'est assez trop confortable. Ce qui est plus intéressant, c'est le futur. Le futur, c'est ce qui arrivera alors qu'on ne le sait pas du tout. Vous savez, le futur, c'est la rencontre avec l'être aimé subitement, n'importe où. C'est ce que racontent les romans d'amour. C'est qu'un coup de fil, on vous appelle, on vous propose une place à l'autre bout du monde. Voilà. Le futur, c'est ça le pur Ixwarpouk. C'est il vous manque quelque chose dans la vie, vous ouvrez la porte, c'est vrai, c'est plus compliqué, il fait froid, l'air froid rentre, c'est la nuit, et tout d'un coup, il y a une sorte de bonne nouvelle qui arrive.
Oui, mais la bonne nouvelle va-t-elle arriver ? Je disais tout à l'heure qu'on peut comprendre ce mot de deux façons pratiquement contradictoires, puisque le premier exemple que vous donnez, c'est l'Inuit qui ouvre sa porte pour voir s'il n'y a pas quelqu'un derrière. La probabilité qu'il y ait quelqu'un derrière est pratiquement nulle. Mais l'excitation est là. Le deuxième exemple, ou l'un des autres exemples que vous donnez, c'est l'excitation de l'enfant la veille de son anniversaire. Un enfant qui songe, demain c'est mon anniversaire, et qui saute de joie rien qu'à l'idée d'y penser, voilà le pur Ixwarpouk. Seulement, là, c'est quand même très différent parce que il y a toutes les chances que son anniversaire arrive le lendemain.
Ah, mais l'Ixwarpouk, c'est vous savez, en allemand, les Allemands ont un mot qui veut dire la pré-joie. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que la joie qu'on a d'avoir une joie future. C'est ça l'Ixwarpouk, vraiment. Et c'est ça un pur gamin. Un gamin qui se dit, demain, c'est mon anniversaire et qui saute de joie. Vous vous rendez compte? Il est deux fois heureux. Heureux la veille, et heureux le jour de son anniversaire. C'est une philosophie très simple, basique peut-être, mais vous vous rendez compte, moi, une philosophie qui me propose d'être deux fois plus heureux dans la vie, moi je prends.
C'est vrai, mais votre Inuit qui sort sur le pas de sa porte, il n'est pas deux fois heureux, il est une fois heureux quand il ouvre pour voir s'il y a quelqu'un. Mais comme il n'y aura personne...
Ça c'est vous qui dites, mais moi j'ouvrirai la porte quand même, je regarderai au loin.
Miwa marmaille, rak son peau d'un cataracte, on y est flou. Y entend le chien, le loup, comme qui ir là-haut. Où sonne en chaque chauffonne au bout de son râle, au bout de son râle, au bout de son note. Ton fond, mi bout, mi graphine, mi mort. Mi envale toute mon misère si fond culotte. Skiza moi l'a pas dire encore. Skiza moi a hier dire plus longtemps. Ou cause pas donc. Dien une affaire. Pile en moulier cabas. Parlez haut, parlez bas. Le sac chauffonne, il dégauche, son souffle, le chien il râle. Sous des doigts, maman, il rate son pauvre maloya. Pour cap cavali, il chante des yeux, des sautes, son bonne cri, un allô.
C'est du maloya, c'est chanté par Anne O'Haro, ça nous vient de La Réunion, ça s'appelle Cap Cap, c'est en créole. Laurent Nunez, vous n'avez pas emprunté de mots aux langues créoles.
Ouais, bah,
vous eussiez pu, mais la prochaine fois peut-être.
Ouais, ouais, y a un tome 2 visiblement, parce que quand je vois tous les mots qui sont à réutiliser, qui pourraient encore nous ouvrir de nouvelles portes dans la vie, ouais.
Bah oui, il y en a sûrement beaucoup. Il y a un mot qui est emprunté à l'allemand, qui est assez difficile à prononcer, mais vous allez certainement m'aider, c'est le Freizeitstress. Alors qu'est-ce que c'est que ce stress du Freizeit, c'est-à-dire du temps libre?
Ouais, c'est étrange, le Freizeitstress. Alors c'est les Berlinois qui l'emploient plus que les Allemands d'ailleurs. C'est quelque chose qui, on pourrait croire que c'est inconnu, mais je pense même pas. Le stress du temps libre, si vous savez, ces personnes, il y a des personnes qui se félicitent de jamais avoir une minute de libre, qui sont très contentes parce que quand elles ont du temps libre, un week-end ou quoi, elles ont trop de choses à faire, elles savent pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que j'aille voir l'expo? Est-ce que je vais voir ma famille? Est-ce qu'il faut que j'aille au ciné, ranger? Et donc elles stressent et elles refusent de prendre des vacances. Moi, j'en connais beaucoup des gens qui refusent et qui voient les vacances ou les congés comme un mauvais œil, comme quelque chose de négatif dans la vie. Et donc, voilà,
ça nous ramène à ce que vous disiez tout à l'heure. Les mots ont une vie et une naissance. Le mot de vacances, dans la signification qu'on lui connaît aujourd'hui, il est pas si vieux. Alors, et le mot travail, ce que nous entendons aujourd'hui par travail, c'est un concept qui n'existe pas dans la langue grecque, par exemple. Il n'y a pas de travail.
Complètement. Et du coup, grâce à ce mot qui est assez récent, berlinois, Freizeitstress, moi je regardais du côté de l'Antiquité des Latins. Et avec l'opposition que l'on fait entre l'osium et le négocium. Nous, toute notre civilisation, elle est faite sur le mode du travail.
Alors dites-nous un petit peu ce que veut dire otium d'abord.
Bien sûr.
Négotium, on verra après.
Évidemment, parce que l'osium, évidemment, initialement, chez les Latins, c'est la première chose à faire dans la vie. C'est-à-dire, c'est voir ses amis, avoir un bon repas, s'éduquer, lire des livres, avoir le temps de réfléchir. C'est tout à fait ce que notre civilisation nous permet de faire dans un second temps. Nous on fait ça le week-end. Et ben, dans l'Antiquité, c'est le début. Et il y avait ce temps-là, osium.
Oui, c'est traduit souvent par loisir.
Ouais.
Et on a tendance, enfin je dis on a tendance parce que c'était mon premier mouvement, à se dire que de otium vient le mot oisiveté, ce qui n'est pas vrai. Influencé le mot oisiveté, mais otium n'a pas donné oisif, il a donné oiseux.
Oui, et finalement, l'osium, chez les Latins, c'est pour être un très bon citoyen. Et c'est pour s'informer de tout ce qui se passe dans la société. Et voyez, et petit à petit, on a inventé un mot pour contrer l'osium, et on a mis un préfixe, le préfixe neg, qui veut dire l'opposition,
c'est
la négation.
Oui, c'est la négation.
Le négocium. Et négocium, ça fait chez nous le négoce, et c'est le travail.
Oui, c'est les affaires, quoi.
C'est les affaires.
Mais c'est le fait d'être affairé.
Ouais. Ben, initialement, au début de la civilisation, il y avait d'abord l'osium, et ensuite le négocium. De nos jours, c'est l'inverse. De nos jours, on travaille 5 jours sur 7. De nos jours, il faut, pour avoir les congés d'août, il faut travailler toute l'année. De nos jours, la retraite, elle est à la fin de la vie. Et il faut la mériter en travaillant. Donc le négocium...
Vous trouvez qu'on devrait prendre sa retraite d'abord?
Bah, je trouve que...
De 20 à 35 ans, et après, bah, on essaierait de la mériter.
Moi, je trouve que plus on accorde de temps aux gens pour qu'ils se construisent en eux-mêmes, et mieux c'est. Et c'est ce que ce mot allemand, parce que j'essaye de le décrypter dans une dizaine ou une douzaine de pages, c'est ce que ce mot allemand nous montre. Ne craignons pas d'avoir du temps libre. Vous savez, là, c'est la rentrée scolaire. Le nombre de parents qui vont vouloir engloutir leurs enfants sous des activités périscolaires, du ping-pong à la danse en passant par l'aquarelle. Laissez vos enfants s'ennuyer. Voilà,
mais le problème, c'est que les enfants s'ennuient beaucoup moins aujourd'hui que jadis, parce qu'il y a des instruments qui leur interdisent de s'ennuyer. Des jeux en ligne, des boutons à presser, des choses comme ça, qui fait que c'est vrai qu'on n'a pas ce moment où on s'ennuie, où on peut-être, dans le meilleur des cas, construire un imaginaire.
Ouais, vous l'avez dit, le dernier mot de votre phrase, c'est le plus important, voilà. C'est l'imaginaire, l'imagination, c'est-à-dire la créativité, ne vient que dans l'ennui. Alors je sais que c'est pas un beau mot, mais voilà, il y a un plaisir à voir le temps suspendre, à voir le temps passer sans rien faire, ça va juste à regarder. Je cite beaucoup d'écrivains dans ce livre, et je cite même Cioran qui explique que même dans ses insomnies, il est comme Dieu parce qu'il voit les minutes qui se créent et qui s'égrènent au fil du temps.
Et vous pensez que Cioran pensait que Dieu avait du mal à dormir?
C'est ce qui est bien avec la littérature, c'est qu'on peut réutiliser une citation même si l'auteur ne pensait pas ça exactement.
You came and you gave so graciously. When you came, you showed vulnerability, but I just wasn't ready to settle down for your stains. I didn't know that I felt like this until I said these words, and it's all changed. You came, you showed so graciously. When you
du ciel, cet ange du ciel descendu qui est là pour, dans la danse des mots, nous chanter Heaven, ce qui va très bien avec Il nous faudrait des mots nouveaux de Laurent Nunez, dont on parle aujourd'hui. Laurent Nunez, il y a une phrase dans l'introduction de votre livre qui m'a beaucoup frappé, je ne sais pas si elle vous a frappé de la même façon que moi. Vous dites, un mot n'est jamais qu'un mot. Est-ce que vous avez réfléchi au double sens de cette phrase, qui peut avoir deux significations mais totalement différentes? Soit celle que vous lui donnez, un mot n'est jamais qu'un mot, c'est beaucoup plus qu'un mot. Ou bien alors, un mot, ce n'est jamais qu'un mot. Vous étiez conscient de cette ambiguïté?
Vous savez, j'en étais conscient parce que c'est mon cinquième livre. Et vous savez, en fait, tout mon travail, mes trois premiers livres, c'était contre l'écriture, contre la littérature, contre les mots. J'ai changé radicalement, en tout cas, j'ai changé de pensée depuis l'énigme des premières phrases, pour lesquelles vous m'aviez déjà invité, mais où il y avait un plaisir du mot. Je crois qu'en effet, je suis passé du dégoût des mots qui ne serviraient à rien, à cette idée que peut-être finalement les mots, parce qu'on est des êtres parlants, pourraient nous servir beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on croit.
Alors, comment vous avez fait pour trouver ces mots, justement? Vous êtes adressé à un certain nombre de langues différentes. Le français n'est pas totalement absent, d'ailleurs, mais il est toujours en domino avec une autre langue. Et puis, il y a des langues très diverses. Comment vous avez trouvé ces mots? Comment vous avez fait votre enquête pour construire votre livre?
Alors, c'est vraiment une enquête, vous le dites, c'est une enquête. C'est-à-dire, j'ai rencontré des gens, des amis. J'ai la chance d'avoir pas mal d'amis qui ont plus voyagé que moi, et de dîner avec eux et de leur poser des questions sur ces mots, sur des mots intraduisibles. C'est comme ça qu'on les appelle. J'en ai trouvé beaucoup dans les livres, certains. Par exemple, il y a un mot que j'aime beaucoup qui clôt en plus le livre, c'est le takitourire.
Alors, parlez-nous un petit peu de ce takitourire.
Takitourire, c'est
un mot d'Apollinaire, si on peut dire.
C'est un mot d'Apollinaire.
Alors, dites-nous duquel.
De Sidoine Apollinaire. Qui était un écrivain de l'Antiquité, qui habitait à côté de Lyon. Et ce mot, je l'ai trouvé grâce
Antiquité à... Antiquité tardive. Hein.
Antiquité qui est tardive, oui. Vraiment, la toute fin, lorsque les barbares
vont envahir. On sent la décadence qui vient.
Complètement. Et Sidon Apollinaire, j'ai trouvé ça chez Roland Barthes et chez Pascal Quignard. Voilà, tout d'un coup, les deux ont noté que Sidon Apollinaire, c'est un homme, c'est le gendre de l'empereur qui est persuadé que Rome est là pour l'éternité et qui va découvrir lentement avec les invasions barbares qu'il n'est rien d'autre qu'une civilisation qui s'éteint, qui s'écroule. Et c'est un très bon poète. Hein. J'ai lu ce qu'il écrit, c'est pas formidable, mais dans ses lettres, dans ses lettres, il est exilé à Bordeaux et il écrit à son éditeur et vous savez ce qu'il fait? Il invente un verbe. D'ailleurs, il invente deux verbes en 5 ans d'écriture. Il invente un verbe, takitourire, avoir envie de se taire. C'est beau pour un écrivain. Et 5 ans après, il invente un autre verbe, scripturire, avoir envie d'écrire. Voilà, c'est étrange. Ça n'existait pas. Vous savez, on est obligé de faire une longue locution pour dire ça.
J'aime bien votre traduction parce que elle est affirmative. Avoir envie de se taire. Vous n'avez pas traduit par n'avoir pas envie de parler.
Bien sûr, c'est pas pareil parce que avoir envie de se taire, c'est un acte, c'est même positif. Voilà. Et si Don Apollinaire, dans le chapitre que j'écris, c'est une sorte de, c'est un acte poétique même de renégat.
C'est un taiseux actif.
Oui, il en peut plus de vanter le vainqueur à chaque fois. Tous les trois ans, on change de roi, on change d'empereur dans son monde. Il en peut plus d'écrire des poèmes, des élégies et tout. Il a envie de partir, de s'éloigner. J'ai découvert chez Quignard. J'ai découvert, il y a des mots inventés par tout le monde. Il y a des mots inventés par des poètes, il y a des mots inventés par des savants, australéniens, en Russie, drapétomaniens, en Amérique. Il y a même des mots inventés par des gamins. Un jour, je vais en Espagne.
À peu près tous les gamins inventent des mots.
Oui, c'est vrai. C'est l'une des grandes chances des enfants d'être si près du langage, qui peuvent en inventer. Et un jour, en Espagne, je vais en Espagne très régulièrement, mon nom de famille évoque une certaine relation avec ce pays, et j'entends mes amis qui prononcent un mot que je ne connaisse pas, un mot très vulgaire, la puti vuelta. Voilà. Et ce mot, je ne le connaissais pas. La puti vuelta, c'est... Je peux pas vous le décrire, mais vous entendez bien qu'il y a le mot puti dedans. La puti vuelta, c'est s'aller dans un lieu public, un bar, une discothèque ou quoi, et faire le tour sous prétexte de voir l'ambiance, pour en fait regarder s'il y a des personnes désirables ou pas. Je trouve ça très étrange, ce mot-là, et j'ai décidé, dans le livre, de faire une enquête. C'est-à-dire, d'un coup, mais qui a inventé ce mot? Quel pays parce qu'il y a le monde...
Et comment il a pris? Puisque vous dites que c'est un mot qui, en très peu de temps d'ailleurs, est devenu à la mode.
Et c'est un mot que maintenant tout le monde emploie.
En hispanophonie, pas juste en Espagne, et d'ailleurs il vient d'Amérique latine.
Et il vient d'Amérique latine, et on voit des t-shirts, on voit des magnets, on voit je l'ai vu ça sur des frigos, etc. Le mot a pris grâce à une télé-réalité. J'ai vraiment essayé d'enquêter, de découvrir comment il est passé tout d'un coup du Nouveau-Mexique, employé par une scientifique qui parlait des prostituées, où tout d'un coup, voilà, il est passé d'une sorte de télé-réalité Acapulco Shore, je vous donne même le nom, pour que maintenant plus des dizaines de millions de gens utilisent ce mot nouveau. Voilà, moi ça me fascine. Et d'ailleurs, depuis cet été, il y a même des soirées à Paris qui s'appellent la puti vuelta. Donc voyez, voilà, j'étudie un mot qui passe, qui peut-être dans 10 ans, ça étonnera plus personne de prononcer ce mot. Voilà, moi je trouve un peu inquiétant. Donc, mais j'essaie de montrer dans ce livre des mots qui m'intéressent et aussi des mots qui sont un peu inquiétants, des mots qui donneraient une réalité un peu, qui assombrirait un peu notre époque.
Alors ça, c'est un mot trivial. Vous me disiez il y a quelques minutes que vous aviez souhaité que dans votre livre il y ait des mots qui soient plutôt optimistes et plutôt gais, que il y en a un certain nombre que vous aviez révoqués parce qu'ils vous paraissaient trop tristes ou trop déprimants. Et pourtant, il y en a quand même qui sont singulièrement désabusés. Par exemple, vous parlez de litoste. C'est très joli et vous en donnez la définition que vous empruntez à Kundera. Alors, dites-nous un petit peu ce que c'est en tchèque, que ce ou cette, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, litoste.
Ah, c'est féminin. Alors, Kundera a essayé...
Je pensais bien que c'était féminin. J'étais pas sûr, mais...
Kundera a essayé de faire rentrer ce mot en français, et il n'est pas encore arrivé, donc je redonne quelques coups de marteau. La litose, c'est un sentiment de désabusement lié à une situation complètement banale. Alors, l'exemple que j'en donne, qui est pas de Kundera, mais du coup, j'essaie de la réinventer. Par exemple, vous êtes dans un restaurant et vous êtes avec quelqu'un, vous commandez le même plat, ça arrive, mais vous le trouvez, le plat est froid. Mais vous dites rien, vous êtes trop éduqué, c'est pas grave, je le mangerai. Tandis que l'autre à côté de vous, il fait une scène, il demande au serveur de le remporter, et ça le remporte, il remporte, et le plat arrive dans 2 minutes, chaud. La litose, d'un coup, elle surgit parce que vous dites, mais pourquoi j'ai pas demandé moi aussi qu'on réchauffe mon plat? Et vous voyez, c'est un sentiment à partir de quelque chose de très trivial, très basique. Vous éprouvez de la litose, non pas parce que votre plat est froid, mais parce que vous, bon Dieu, on vous a bien éduqué à pas embêter les gens, à pas vouloir, à pas être le type mal aimable de service, etc. Donc c'est à partir d'une situation quotidienne ressentir une blessure très ancienne. Alors, c'est un mot tchèque qui peut être inventé que par les Tchèques, par l'âme tchèque en tout cas. Je trouve qu'il y a un mot qui explique beaucoup, beaucoup de situations.
C'est vrai que c'est apparemment dépressif et en même temps c'est intéressant parce qu'on se demande dans l'exemple que vous donnez, qui est dans votre livre, Qui a gagné à cette soirée? Est-ce que c'est le pauvre idiot qui a mangé chaud et qui a été bien, bien content de manger chaud, mais comme il fait toujours, parce qu'il renvoie toujours les plats? Ou est-ce que c'est sa compagne qui, peut-être, a appris quelque chose sur elle?
Complètement. Dans le livre, d'ailleurs, il y a des paragraphes, je tourne la caméra de côté.
Oui, à la suite, oui.
Voilà, c'est-à-dire que je raconte l'histoire de l'autre côté. Tout le monde peut éprouver la litoste, parce que tout le monde a un sentiment d'échec quelque part. On peut reprendre ça, je reprends ça avec des gens qui dansent. Chez Kundera, c'est mémoire bonne, c'est un homme qui voyait sa femme qui nageait mieux que lui. Et il était jaloux, non pas du fait qu'elle nage mieux que lui, mais que visiblement ses relations avec ses parents à elle étaient mieux, parce que lui, dans son enfance, on lui avait même pas appris à nager. Donc je trouve ce mot vraiment très beau. Il y a même un album de BD qui, du coup, s'appelait Litoste. Et en fouillant, j'ai même trouvé qu'on quelqu'un a fait une thèse formidable qui s'appelle Litoste et Litote chez Racine.
Alors, on peut terminer avec un très joli mot qui est beaucoup plus optimiste, lui, et qui est kintsugi, et qui nous vient du japonais. Qu'est-ce que c'est, Laurent Nunez, que le kintsugi?
Ah, le kintsugi,
ça sonne bien. Hein,
ouais, ça sonne bien. Il faut aller au musée Guimet là pour voir ce que c'est, parce qu'ils en ont plein. Le kintsugi, c'est l'art de réparer quelque chose, un vase ou quoi, en montrant qu'il a été cassé. Vous savez, c'était initialement, donc je raconte ça, c'est vraiment au Japon. Un shogun avait un vase qu'il adorait, un bol qu'il adorait. Il a été cassé. On lui a demandé. Il a voulu qu'on le répare. On l'a réparé, mais mal, en mettant des brochures. Donc, forcément, le thé fuyait. Il a redonné aux artisans, disant je veux absolument qu'il soit réparé, mais je veux en plus qu'on voit qu'il a été cassé. Et là, ils ont été obligés de souder les morceaux, les tessons, avec de l'or.
Justement, tout est là. Avec quoi soude-t-on? Avec toi répare-t-on? Avec de l'or. C'est-à-dire que la réparation est plus précieuse que l'objet d'origine.
Oui, c'est-à-dire que l'objet cassé coûte plus cher que l'objet neuf.
Bien sûr.
Et vous vous rendez compte? Et donc là, on parle pas. Tout d'un coup, on ne parle pas des bols, on parle de toutes les blessures qu'on peut avoir dans la vie, des cicatrices. Ça sert à rien d'uniformiser, de réparer. Vous savez ce que dit Cyrulnik, la résilience qu'on entend à peu près partout, c'est-à-dire faire comme si c'était rien passé, rebondir. Pour moi, rebondir, c'est affreux. Je pense que on a besoin du kintsugi pour réapprendre.
Heureusement qu'il y a des vases qui ne rebondissent pas et qui se brisent quand on les lâche.
Complètement. Moi, je trouve ça beau. Vous savez, d'avoir un. Chez moi, c'est vrai, j'ai un vase un peu brisé, mais c'est parce que ça, il y a une force émotionnelle dedans. Je le jetterai pas. Il me rappelle beaucoup de choses. La vie nous brise toujours d'une manière ou d'une autre. Si on essaye de se reconstruire à neuf, je peux déjà vous prévenir que c'est raté.
C'est vrai. Et moi, je connais un potier qui fait de la poterie traditionnelle japonaise, qu'on appelle du raku, et qui fait en particulier des bols à thé, et qui les vend, ils sont magnifiques, mais qui dit, ils sont garantis à vie. C'est-à-dire, si tu le casses, tu me le ramènes et je te le réparerai. Eh bien, je suis sûr qu'un bol à thé raku réparé a en effet beaucoup plus de prix qu'un bol qui n'a jamais été cassé. Merci encore, Laurent Nunez, d'avoir été avec nous pour nous parler de tous ces mots nouveaux dont on apprend l'existence dans votre dernier livre édité aux éditions du Cerf. Il nous faudrait des mots nouveaux. Vous dites du Cerf ou du Cerf, Florent?
C'est une bonne question. Moi, je dis du Cerf, mais les deux sont vraiment valables.
Les deux sont possibles. C'est comme sourcier et sourcil. Merci bien d'avoir été dans cette danse des mots. Une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI. Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amard.